Chapitre 32. Le guetteur. Les données capturées ne comprenaient aucune description de l'apparence biologique des trisolariens. Les humains devraient attendre plus de 4 siècles avant de les découvrir de leurs propres yeux. À la lecture de ces documents, Iwanji se résigna donc à les imaginer comme des créatures humanoïdes. Le poste de guet 1379 existait depuis déjà plus d'un millénaire. Il y en avait plusieurs milliers du même genre sur Trisolaris, tous entièrement dédiés à l'écoute de possibles signes d'une civilisation intelligente ailleurs dans l'univers. À l'origine, chaque poste comptait plus de 100 guetteurs, mais avec le développement de la technologie, la tâche pouvait maintenant être effectuée par un seul individu. Guetteur était un métier modeste. Même si le système de thermostat à température constante des postes de guet leur permettait de survivre aux airs chaotiques sans avoir besoin de se déshydrater, les guetteurs devaient toutefois passer leur vie entière dans un minuscule espace et ne goûtaient que très peu à la joie éprouvée par leurs semblables lors du retour des airs régulières. Le guetteur du poste 1379 regarda à travers sa petite fenêtre le monde de Trisolaris. C'était la nuit sombre d'une ère chaotique. La lune géante ne s'était pas encore levée et la plupart de ses congénères étaient en état d'hibernation déshydratée. Même les végétaux de Trisolaris avaient développé avec le temps un instinct de déshydratation. Lors des ères chaotiques, ils devenaient des bouquets sans vie de fibres séchées. Sous les rayons des étoiles, la Terre paraissait être un bloc de métal froid. C'était un de ces moments durant lesquels il se sentait le plus seul. Dans le silence de minuit, l'univers apparaissait à ceux qui tendaient l'oreille vers lui comme une vaste plaine désertique. Le guetteur du poste 1379 détestait voir ses courbes oscillant légèrement sur l'écran de surveillance. C'étaient les ondes radio de l'univers que recevait le poste de guet. Un bruit de fond sans aucune signification. Le guetteur voyait dans ces lignes sans fin comme une représentation abstraite de l'univers, une extrémité reliée à un passé infini et l'autre à un futur infini, et au milieu, une courbe aléatoire sans règles et sans vie traversée de pics et de vallées, comme un désert unidimensionnel tapissé de grains de sable de différentes tailles. Des rangées de grains de sable solitaires, désolés, si longues qu'elles en étaient insupportables. On pouvait longer ce désert d'un bout à l'autre sans jamais en trouver la fin. Cette nuit-là, cependant, en laissant traîner son regard sur l'écran, le guetteur aperçut quelque chose d'anormal. Même des experts auraient eu du mal à dire, à l'œil nu, si la forme d'onde qui venait d'apparaître était porteuse d'une information quelconque. Mais le guetteur connaissait trop bien le bruit de fond de l'univers. La forme d'onde qui s'était dessinée devant ses yeux avait quelque chose en plus, quelque chose d'inexprimable. Cette courbe montante et descendante paraissait avoir une âme. Il était certain que cette onde radio avait été créée par une forme d'intelligence. Le guetteur se précipita devant un autre terminal et vérifia le niveau de confiance du contenu du signal estimé par l'ordinateur. Rouge 10. Aucune des ondes radio reçues jusqu'à ce jour n'avait dépassé un niveau de confiance de bleu 2. Si un signal atteignait le niveau rouge, cela signifiait que la probabilité que la transmission contienne une information intelligente était supérieure à 90%. Un rouge 10 indiquait que le message reçu utilisait un système de code auto-interprétatif. Son ordinateur de déchiffrage se mit en marche et tourna à plein régime. La machine décrypta le code et un message indiquant le succès de l'opération s'afficha sur l'écran. Le guetteur ouvrit le fichier et, pour la première fois, un être trisolarien lut une information en provenance d'un autre monde de l'univers. Salutations amicales aux habitants du monde qui reçoit ce message. Grâce aux informations ci-dessous, vous obtiendrez des connaissances de base sur la civilisation terrienne. Après une longue histoire de labeur et de créativité, les humains ont bâti une civilisation splendide et vu naître une riche variété de cultures. Nous avons aussi commencé à comprendre les lois de la nature et celles du développement de nos sociétés. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'ici. Mais notre monde est encore très imparfait. Il existe de la haine, des préjugés et des guerres. En raison de la contradiction entre forces productives et rapports de production, il subsiste une grave inégalité de répartition des richesses. Une partie importante des humains vit dans la misère et la pauvreté. Les sociétés humaines s'efforcent de résoudre les difficultés et les problèmes qu'elles rencontrent et tentent de créer un avenir plus radieux pour la civilisation terrienne. Le pays à l'origine de ce message est engagé dans cet effort. Nous essayons de construire une société idéale dans laquelle le travail et la valeur de chaque être humain seraient pleinement respectés. Les besoins matériels et spirituels de chacun doivent être pleinement satisfaits pour que la civilisation de la Terre soit encore plus parfaite. C'est avec la meilleure des intentions que nous espérons pouvoir créer un contact avec d'autres civilisations. Nous espérons que nous pourrons travailler ensemble à bâtir une vie meilleure dans l'immensité de l'univers. Saisi d'une excitation étourdissante, le guetteur observa les formes d'ondes radio s'afficher sur l'écran. L'information continuait à abonder sans cesse de l'espace en pénétrant par l'antenne. Grâce à l'existence du code auto-interprétatif, l'ordinateur était capable de traduire et d'afficher en simultané le contenu des informations reçues. Durant les 2 heures trisolariennes qui suivirent, le guetteur apprit l'existence du monde terrien et de son soleil unique. Il apprit que la Terre vivait dans une ère régulière éternelle et que ce paradis au climat toujours stable avait donné naissance à la civilisation humaine. La transmission depuis le système solaire se termina. L'ordinateur de déchiffrage se mit à tourner dans le vide. Le système de surveillance du poste 1379 entendait à nouveau le bruit de fond d'un univers désolé. Mais le guetteur était certain de ne pas avoir rêvé. Il savait que les milliers de postes de guet disséminés dans le monde avaient eux aussi reçu ce message que tous attendaient depuis des millions d'années. Les 200 civilisations ayant jadis rampé dans un tunnel obscur voyaient enfin un filet de lumière au bout de ce tunnel. Le guetteur relut une nouvelle fois le message venu de la Terre. Ses pensées s'égarèrent dans ces océans bleus qui ne gelaient jamais, dans ces champs et ces forêts vert émeraude où l'on sentait la chaleur des rayons du soleil et la caresse fraîche de la brise. Quel monde merveilleux ! Le paradis dont avaient rêvé 200 civilisations existait réellement. Son excitation et son enthousiasme furent toutefois vite refroidis. Tout ce qui lui restait, c'était une sensation de perte et d'amertume. Durant ces longues heures de solitude, le guetteur s'était demandé plus d'une fois s'il recevait vraiment un jour une information provenant d'un monde extra-trisolarien, sa vie serait-elle bouleversée pour autant? Ce paradis ne lui appartiendrait pas, et sa modeste existence de guetteur solitaire ne connaîtrait pas le moindre changement. Mais le paradis pouvait au moins lui appartenir en rêve. Et alors qu'il était perdu dans ses pensées, le guetteur se mit en état de sommeil. Dans l'environnement inhospitalier de leur planète, les trisolariens avaient évolué de manière à pouvoir contrôler leur entrée et leur sortie du sommeil. Ils pouvaient s'endormir en quelques secondes seulement. Mais il n'obtint pas du tout le rêve souhaité. La Terre bleue lui apparut bien en songe, mais sous les feux nourris d'une immense flotte interstellaire. Les 6 beaux continents terriens commençaient à s'embraser, l'eau bleue marine des océans se mettait à bouillir et à s'évaporer à cause de la chaleur. Lorsqu'il s'éveilla de son rêve, le guetteur vit passer à travers sa fenêtre un rayon froid appartenant à la lune géante. Il regarda dehors la terre glacée et repensa à sa vie de solitude. Il avait déjà vécu 600 000 heures trisolariennes. L'espérance de vie moyenne des trisolariens était de 700 à 800 000 heures. Cependant, la plupart perdaient toute productivité dans leur travail bien plus tôt. Ils étaient alors forcés de se déshydrater et les fibres sèches de leur corps étaient brûlées. La société de Trisolaris n'avait que faire des oisifs. Soudain, le guetteur songea à une autre possibilité. Il n'était pas tout à fait exact de dire que la réception du message extra-trisolarien n'aurait aucune conséquence sur sa vie. Après confirmation de la cible, le monde de Trisolaris réduirait certainement le nombre de ses postes de guet. Un poste comme le sien ferait sans doute partie des premiers fermés. Il se retrouverait alors sans emploi et les talents d'un guetteur étant limités, ils consistaient en de simples opérations et protections routinières, il lui serait difficile de trouver un autre emploi. S'il était incapable de trouver un nouveau travail dans les 5000 heures trisolariennes à venir, il serait à son tour contraint de se déshydrater puis jeter au feu. La seule voie pour échapper à ce destin était de s'unir avec un membre du sexe opposé. Quand ce genre d'événement avait lieu, la substance organique des deux corps fusionnait en une seule entité. Intervenait alors un processus complexe. Les deux tiers de cette entité étaient utilisés pour déclencher une réaction biochimique entraînant le renouvellement intégral des cellules du tiers restant, ce qui faisait naître un être nouveau. Cet être donnait à son tour naissance à de nouvelles vies de 3 à 5 selon les cas, ses enfants. Ceux-ci héritaient d'une partie de la mémoire de leurs parents, dont ils devenaient en quelque sorte une prolongation, en commençant un nouveau cycle de vie. Mais au vu du statut social du guetteur, vivant seul et confiné dans son espace de travail, et qui plus est à son âge, où pourrait-il trouver un membre de sexe opposé intéressé pour fusionner? Dans ses vieilles années, le guetteur s'était posé des millions de fois la même question. Est-ce ainsi qu'est ma vie? Et des millions de fois, il se répondait à lui-même, « Oui, c'est ainsi qu'est ta vie. Tout ce que tu possèdes, c'est cette solitude infinie dans l'espace étroit de ton poste de guet. » Il ne pouvait pas perdre ce paradis lointain, même s'il n'existait que dans ses rêves. Le guetteur savait qu'à l'échelle de l'univers, il n'existait pas de mesure de référence suffisamment longue pour localiser la source d'ondes radio de basse fréquence provenant de l'espace. On ne pouvait déterminer que la direction depuis laquelle avait été transmis le message, mais pas sa distance. La source pouvait avoir transmis un message à haute fréquence, mais se situer très loin, ou au contraire avoir transmis à faible fréquence, mais se trouver très proche. Dans la direction d'où provenait le signal, existaient des milliards d'étoiles scintillant devant un fond constitué d'un océan d'autres étoiles. Sans connaître la distance de la source de transmission, il était impossible de connaître ses coordonnées exactes. La distance. La clé, c'était la distance. En réalité, il y avait un moyen simple de connaître cette distance. Il fallait tout simplement renvoyer un message et que l'interlocuteur y réponde rapidement, afin qu'on puisse déterminer sa distance grâce au temps mis pour faire l'aller-retour entre transmission et réception, et ce, à la vitesse de la lumière. Toute la question était de savoir si l'autre répondrait. Ou alors peut-être mettrait-il un certain temps à répondre, ne permettant pas aux trisolariens de déterminer le temps mis par le trajet des ondes radio. La source de cette transmission avait cependant volontairement envoyé cet appel vers l'univers. Il y avait donc de grandes chances qu'il réponde après réception d'un message de Trisolaris. Le guetteur était sûr que le gouvernement trisolarien avait déjà donné l'ordre d'envoyer un message à ce monde éloigné pour les appâter et leur donner envie de répondre. Peut-être le message avait-il été transmis. Peut-être que non. Dans le second cas, il avait enfin la chance d'allumer une flamèche qui illuminerait le quotidien de sa vie. Comme pour la base de Côte-Rouge sur Terre, une partie des postes de guet du monde de Trisolaris envoyait également des messages dans l'univers, dans l'espoir que des civilisations extra-trisolariennes leur répondent. Les scientifiques trisolariens s'étaient très tôt rendus compte que les étoiles pouvaient amplifier les ondes radio. Mais à leur grand regret, la structure des trois soleils d'Alpha du Centaure était très différente du soleil terrien, et il existait autour de la planète de Trisolaris une grande plasmasphère, cette couche de plasma responsable de la transformation soudaine d'un soleil en étoile volante à une certaine distance de la planète, ou de l'apparition des soleils sous forme d'étoiles volantes. Cette plasmasphère faisait l'effet d'un bouclier anti-ondes électromagnétiques, de sorte que le seuil à partir duquel les ondes radio pouvaient atteindre les miroirs solaires était bien plus élevé que celui du système solaire. Cela rendait impossible l'utilisation du soleil comme antenne amplificatrice. Il leur était simplement possible de transmettre des signaux directement depuis une antenne au sol. Dans le cas contraire, les humains auraient déjà eu depuis longtemps connaissance de l'existence de la civilisation de Trisolaris. Le guetteur se précipita devant l'écran de l'ordinateur d'exécution. Il composa un court et simple message, puis ordonna à la machine de traduire le message dans le même langage que celui qu'elle avait reçu de la Terre. Il pointa ensuite l'antenne du poste de guet vers la direction de la source de transmission. Le bouton de transmission avait la forme d'un rectangle rouge. Les doigts du guetteur étaient suspendus 2 centimètres au-dessus. Le destin de Trisolaris tenait à présent à ses doigts fins. Sans la moindre hésitation, le guetteur pressa le bouton. Ces ondes radio transmises à haute fréquence, porteuses d'un message très court, mais capables de sauver une autre civilisation, s'envolèrent dans l'obscurité de l'univers. Ce monde a bien reçu votre message. Ici, je suis un pacifiste. Vous avez de la chance que je sois le premier à intercepter votre message. Je vous avertis, ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Il existe des dizaines de millions d'étoiles dans votre direction. Tant que vous ne répondrez pas, ce monde n'aura aucun moyen de localiser la source de votre transmission. Mais si vous répondez, vous dévoilerez votre position. Votre système sera envahi et votre monde occupé. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Nous ignorons à quoi ressemble le palais du chancelier de Trisolaris, mais nous avons la certitude qu'il est séparé du monde extérieur par des parois très épaisses qui le protègent du climat rigoureux de la planète. La pyramide du jeu des trois corps est une hypothèse parmi d'autres. Il existe une théorie disant que l'édifice est souterrain. 5 heures trisolariennes plus tôt, le chancelier avait reçu un rapport sur le message extra-trisolarien. 2 heures trisolariennes plus tôt, il avait reçu un rapport lui indiquant cette fois qu'un message d'avertissement était parti du poste de guet 1379. Le premier rapport ne l'avait pas rendu fou de joie, ni le second empli de désespoir. Il n'éprouvait pas non plus de haine envers le guetteur du poste 1379. Ses émotions, comme d'ailleurs toutes les autres, peur, tristesse, bonheur, goût pour la beauté, etc., étaient des sentiments que la civilisation trisolarienne s'efforçait de bannir et de proscrire, car ils affaiblissaient spirituellement les individus et la société, et n'étaient d'aucune utilité pour survivre dans leur terrible environnement. Les sentiments nécessaires dans le monde de Trisolaris étaient le sang-froid et l'insensibilité. L'histoire des 200 cycles passés leur avait appris que les civilisations ayant mis ces 2 inclinations au centre de leur spiritualité avaient été celles dont le pouvoir de survie avait été le plus puissant. « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» demanda le chancelier au guetteur du poste 1379 qu'il avait convoqué devant lui. « Pour ne pas avoir vécu pour rien, » répondit calmement le guetteur. « Tu as envoyé un signal d'avertissement. Tu as peut-être fait perdre à la civilisation trisolarienne sa seule chance de survie. Mais j'ai accordé une chance à la civilisation terrienne. Chancelier, permettez que je vous raconte une histoire. Durant une ère chaotique d'il y a environ 10 000 heures trisolariennes, le fourgon de ravitaillement a oublié d'approvisionner le poste de guet 1379 lors de sa tournée. Pendant les 100 heures trisolariennes qui ont suivi, j'ai donc été privé de nourriture. J'ai mangé tout ce qu'il était possible d'avaler dans mon poste de guet, y compris mes propres vêtements. Malgré tout, lorsque le fourgon est revenu, j'étais presque mort de faim. Mes supérieurs m'ont accordé la plus grande période de repos de toute ma carrière. Je suis retourné en ville à bord du fourgon de ravitaillement, et durant le chemin, j'ai été pris d'un puissant désir de posséder toute la nourriture du véhicule. Dès que j'apercevais quelqu'un manger quelque chose à bord, mon cœur s'emplissait de fureur, j'avais envie de le tuer. Je ne cessais de voler des aliments, je les cachais dans les plis de mes vêtements et sous mon siège. Les employés du fourgon ont trouvé mon attitude fascinante et m'ont offert de la nourriture en cadeau. Lorsque je suis arrivé en ville et que je suis descendu du fourgon, Je portais sur le dos une quantité de nourriture bien supérieure à mon propre poids. Bien sûr, j'ai fini par retrouver mes esprits, mais cet intense désir de possession est resté gravé en moi. La civilisation de Trisolaris se trouve elle aussi face à une situation de crise pour sa survie. Son désir de posséder un nouvel espace de vie est au moins aussi intense et insatiable que l'a été mon désir de posséder la nourriture. Elle ne pourra jamais partager ce monde avec les Terriens. Nous détruirons sans hésiter la civilisation terrienne et entrerons en possession de tout le système solaire. J'ai raison, n'est-ce pas ?
Oui, mais il existe une autre raison de détruire la civilisation terrienne. C'est une race belliqueuse qui peut se montrer très dangereuse. Si nous essayions de coexister, ils apprendraient rapidement notre technologie et les deux civilisations finiraient par s'affronter. La politique que nous avons décidée est celle-ci. Après la prise de contrôle du système solaire et de la Terre par la flotte trisolarienne, nous n'interviendrons pas dans le cours de la vie des Terriens. Ils pourront continuer à vivre comme avant, comme si les occupants trisolariens n'existaient pas, mais il leur sera interdit de se reproduire. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Tu voudrais être le sauveur de la Terre, mais ne te sens-tu pas responsable de ta propre civilisation ?
Je suis fatigué du monde de Trisolaris. Nous n'avons rien dans nos vies et nos esprits que la lutte pour la survie. Où est le mal ?
Il n'y a pas de mal. La survie est la prémisse de tout le reste, mais, chancelier, regardez nos vies. Tout est dédié à la survie de la civilisation. Afin de permettre à la civilisation de subsister, le respect de l'individu est presque inexistant. Ceux qui ne peuvent plus travailler doivent mourir. La société trisolarienne est extrêmement totalitaire. La loi fonctionne selon deux principes uniques, coupable et non coupable. Les coupables doivent périr et les non-coupables sont relâchés.
Mais le plus intolérable à mes yeux, c'est l'uniformité et l'assèchement de notre vie spirituelle. Tout ce qui peut conduire à une faiblesse de l'esprit est décrété pernicieux. Nous n'avons ni littérature, ni art. Nous ne cherchons ni la beauté, ni l'extase. Nous n'avons même pas de mots pour parler d'amour.
Chancelier, cette vie-là a-t-elle un sens ?
Le genre de civilisation à laquelle tu aspires a naguère existé sur Trisolaris. C'était des sociétés libres, démocratiques, et elles ont laissé derrière elles de riches héritages culturels. Seule une infime partie de cet héritage est autorisée au public. La plupart de leurs accomplissements sont scellés et interdits d'accès. Mais de tous les cycles de civilisations trisolariennes, ce sont ces civilisations qui ont été les plus faibles et les plus éphémères. Elles ont disparu dès la première petite catastrophe d'une ère chaotique. Observe une nouvelle fois cette civilisation terrienne que tu veux sauver, cette société née et élevée sous une sphère au printemps éternel. Si on la transplantait sur Trisolaris, elle ne survivrait certainement pas plus d'un million d'heures trisolariennes.
C'est une fleur fragile, mais elle est d'une splendeur sans égale. Dans la tranquillité de son paradis, elle sent le parfum de la liberté et de la beauté.
Si la civilisation trisolarienne entrait en possession de ce monde, nous pourrions, nous aussi, avoir une telle vie.
Chancelier, j'en doute.
L'esprit des trisolariens est aussi dur que du métal. Il s'est solidifié dans chacune de nos cellules. Voyez-vous que cet esprit fondra un jour ? Je ne suis qu'un être insignifiant, j'appartiens aux couches les plus basses de la société. Personne ne prête attention à moi. Je vis seul, sans richesse, sans position, sans amour et sans espoir. En sauvant ce merveilleux monde lointain dont je suis tombé amoureux, je n'aurais au moins pas vécu tout ce temps pour rien. Bien entendu, chancelier, cela m'a également donné la chance de vous rencontrer. Sans cet acte, un homme comme moi n'aurait jamais pu vous admirer autrement que par l'intermédiaire d'un écran. Permettez-moi de vous dire que je suis honoré.
Tu es coupable, sans aucun doute. Tu es le plus grand criminel de toute l'histoire des cycles de civilisation de Trisolaris. Mais nous ferons une exception dans la loi. Tu es libre.
Chancelier, comment cela est-il possible ?
La déshydratation et le bûcher ne seraient pour toi qu'une médiocre punition.
Tu es âgé et tu ne verras jamais la destruction finale de la civilisation terrestre. Mais je veux au moins être sûr que tu saches que tu ne la sauveras pas. Je veux que tu vives jusqu'au jour où elle aura perdu tout espoir. Bien, tu peux te retirer à présent. Une fois le guetteur du poste 1379 parti, le chancelier appela le consul en charge des postes de guet. Le chancelier évita aussi de s'énerver contre lui, ce n'était qu'une affaire de routine. « Comment as-tu pu laisser un être si faible et si démoniaque devenir guetteur ?»« Chancelier, nous employons plus de 100 000 guetteurs. Il est difficile de dépister ce genre d'individu, d'autant que 1379 n'avait jusqu'alors jamais commis la moindre infraction. Naturellement, c'est une faute grave dont j'assume l'entière responsabilité. Combien d'autres individus partagent cette responsabilité dans le système de surveillance ?» J'ai mené une première investigation, à tous les niveaux, je dirais 6 000 personnes. Ils sont tous coupables. Oui. Que l'on déshydrate ces 6 000 personnes, puis qu'on les brûle sur la place de la capitale. Quant à toi, tu serviras à faire démarrer le feu. Merci, chancelier, cela apaisera notre conscience. Mais avant cela, j'ai encore une question. Quelle est la distance maximale que peut atteindre ce message d'avertissement ? Le poste 1379 est un poste de guet de petite envergure. Sa capacité de transmission n'est pas très grande. Je dirais que la distance maximale est d'environ 12 millions d'heures-lumière, soit 1200 années-lumière. C'est déjà suffisamment loin. As-tu un conseil à nous donner sur la prochaine étape à mener? Et si nous envoyions à ce monde un autre message pour les séduire et leur donner envie de répondre? Non, cela ne ferait qu'empirer les choses. Par chance, le contenu du message d'avertissement est très court. Espérons que les terriens n'y feront pas attention ou qu'ils l'interpréteront de travers. Bien, tu peux te retirer à présent. Une fois le consul parti, le chancelier appela cette fois l'amiral de la flotte trisolarienne. Combien de temps est-il nécessaire pour préparer le départ de la première flotte? Chancelier, la flotte en est encore à sa dernière phase de construction. Nous avons besoin d'au moins 60 000 heures trisolariennes avant qu'elles soient pleinement opérationnelles. Je présenterai bientôt mon plan à l'Assemblée des consuls. Dès que la flotte sera prête, elle s'envolera dans cette direction. Chancelier, étant donné la fréquence de la transmission, nous ne pouvons pas même être sûrs avec exactitude de la direction de la source. Vous devez savoir que notre flotte sera incapable d'effectuer une exploration large dans cette direction. Si nous ignorons la distance de la cible, la flotte finira par chuter dans les abysses de l'espace. Mais regarde nos trois soleils. La couche externe de l'un d'entre eux peut à tout moment entrer dans un cycle de dilatation et avaler la dernière planète du système, la nôtre. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons prendre ce risque.